Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En Soum Soum. Bonjour Big Rusty, bonjour Chris. On va parler évidemment du choc tant attendu entre Jan Błachowicz et Aleksander Rakic, mais surtout des codes de Paris pour Islam Makhachev, Charles Oliveira. Il y a peut-être du manque de respect lié à ce combat-là. Enfin, on va parler de tout ça tous ensemble. C'est parti, générique. Swear.
Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
Commence par quoi, Chris? C'est toi qui choisis.
On commence par ce qui buzz.
Oh wow. Oh wow, et bien on va parler de Smolka qui fait son grand retour. Non, on va parler donc Islam Makhachev, Charles Oliveira. Les codes de Paris sont sortis et impressionnant favori Islam Makhachev. Chris, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Surtout que tu as fait une petite analyse sur le sujet. Tu ne viens pas les mains vides.
Oui. Alors, juste pour commencer, donc on va être précis. Islam Makhachev avait ouvert à moins 410. Charles Oliveira à plus 340. Donc là, on est vraiment sur gros favori, gros underdog. Depuis que les cotes ont été ouvertes, ça s'est rapproché, mais j'ai perdu l'image. Ça s'est rapproché et Charles Oliveira est underdog modéré maintenant à plus 190 et Islam Makhachev à moins 225. Donc ça veut dire que les oddsmakers, donc ceux qui définissent les cotes de paris d'ouverture, ont manqué de respect à Charles Oliveira, mais que les fans et les parieurs mettent beaucoup d'argent sur Charles Oliveira depuis que les codes sont sortis, donc montrent du respect envers, j'allais dire le champion, mais on va dire le champion officieux.
Dans nos cœurs,
voilà, officieux, c'est la bonne façon de le faire. Donc, moi, j'ai été ultra surpris. Vraiment, j'ai pas trop compris la logique des oddsmakers, parce que normalement, tu regardes deux choses. Tu regardes un peu sur papier, et puis tu analyses les combats et tu essaies de trouver une raison au code que tu sors. Sur papier, déjà, c'est difficile de comprendre. Alors certes, Islam Makhachev est sur une très longue série de victoires, des victoires difficiles à critiquer, ultra dominantes, un peu comme on le compare souvent à Khabib, un peu comme Khabib à l'époque, c'est très dominant, on l'a rarement vu en difficulté. La dernière fois qu'on l'a vu en difficulté, je mets des guillemets, c'est quand Thiago Moïse a eu brièvement son dos, et puis avant ça, il faut limite remonter à Adriano Martins, qui l'avait mis KO, mais c'était encore en début de carrière UFC. Il n'a pas affronté des très très gros noms, c'est un peu ça qu'on lui reproche. Et au final, on le met face à Charles Oliveira, qui lui a prouvé que, ben voilà, contre des gros noms, il était présent et il arrivait à gagner de manière spectaculaire, même s'il se fait toujours mettre en difficulté. Ça fait partie de son jeu, on en avait un peu parlé dans le dernier Soum Soum, c'est quand tu mets autant de volume, autant d'intensité, évidemment, tu vas te faire toucher, mais le fait qu'il soit systématiquement celui à qui on lève le bras et qui est sur une victoire de 12 victoires, je pense, c'est quand même gros, je trouve, de le mettre underdog dans ce combat. En plus de ça, si on fait une analyse plus technique, ce que ça veut dire, c'est que les oddsmakers se sont dit Islam Makhachev aurait aucune difficulté à amener Charles Oliveira au sol et à le dominer au sol. Ce qui, moi, ça me choque un peu, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu Charles Oliveira se faire facilement amener au sol. La dernière fois qu'il s'est fait amener au sol, c'est par Kevin Lee. Et en fait, c'était le deuxième takedown de Kevin Lee, c'était le début de la fin du combat aussi. Donc, ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de difficultés. Islam Makhachev est réputé pour être fort physiquement, mais clairement, Charles Oliveira aussi montre que physiquement, il est présent dans tous les combats, surtout en grappling, face à ses adversaires. Donc, là, je suis déjà beaucoup plus en accord avec les codes de Paris qui s'adaptent selon l'argent qui rentre en lice. Donc, moi, j'aurais mis Charles Oliveira léger favori, pas gros favori, mais léger favori contre Makhachev. Voilà, moi, je ne sais pas si l'un de vous a peut-être une explication de pourquoi Islam était parti autant favori et bon, l'est toujours. Bon, il le sera peut-être plus pour longtemps, mais il l'a encore.
Non, non, je trouve ça assez bizarre, moi. Vas-y, reste.
Mais c'est qui, en fait, les gars qui font les codes de Paris au tout début?
Que veulent-ils?
Mais en fait, je sais pas, ils sont définis par les sites, les sites de Paris, j'imagine. J'ai pas beaucoup de renseignements par rapport à ça. Je m'étais déjà une fois renseigné à un moment, mais voilà, c'est juste des. Il y a, normalement, de ce que j'ai compris, il y a une partie de statisticiens et une partie de experts du sport. Et en fait, ils se mettent d'accord par rapport. Donc, il y a les stats qui vont donner une pré-indication. Et puis, tu as une révision des experts qui se disent, OK, sur base de vos stats et des codes de Paris que vous avez sortis sur vos stats, moi, je mettrai un plus gros gap ou alors je rapatrierai vers l'axe ou alors j'inverserai underdog et favori. Mais donc, il y a des discussions qui ont lieu entre experts et mathématiciens. Alors, prenez ça avec des pincettes. Hein. J'ai aucune certitude sur ce que je viens de dire, mais d'après les premiers renseignements que j'avais pris, c'est comme ça que les codes de Paris se définissent. Et ouais, au final, c'est... Oui, je trouve ça rare d'avoir des codes de Paris qui soient à l'ouverture si choquantes. C'est très, très rare. La dernière fois que ça arrivait dans ma tête, c'était Ronda Rousey qui avait ouvert ultra favorite contre Nunes. Et là, moi, j'avais foutu plein pot sur Nunes. Et ça, c'est le genre de truc que les parieurs aiment bien. C'est quand pour eux, la cote de Paris est choquante, bah, ils vont directement foncer. C'est pour ça que ça se rapatrie.
Ouais, mais après, justement, pour les bookmakers, c'est pas du tout intéressant de faire ça.
Bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Non, c'est pas intéressant. Sauf s'ils sont sûrs à 2000% que Makhachev va gagner. Du coup, ils se disent, bah, on va le mettre ultra favori. Comme ça, il y a plein d'argent qui rentre sur Oliveira et tout cet argent, ils vont le perdre. Mais alors, ils doivent avoir vu quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas vu. Et ça arrive. C'est vrai qu'il y a des discussions comme ça chez les parieurs, que de temps en temps, les oddsmakers font exprès d'exagérer certaines cotes parce qu'ils se disent que le fan casual ou le parieur moyen va rentrer sur l'autre et ils sont vraiment tellement persuadés que cet autre va perdre que bah, ça leur fera beaucoup d'argent. Dans leur poche.
Ouais, non, c'est vrai, oui, je me souviens, il y avait eu cette histoire-là, c'était notamment avec les combats de Conor McGregor contre Floyd Mayweather, où justement, il y avait énorme, la plupart des paris allaient sur Conor McGregor. Mais bon, ouais, non, c'est assez bizarre, ça, c'est vrai que pour Charles Oliveira, mineur, et je crois que c'est sur tous ses derniers combats, il est à chaque fois outsider, en plus.
À part contre Gaethje, mais c'est vrai que pour la ceinture contre Dustin Poirier, il était underdog. Contre Tony Ferguson, il était underdog, il me semble. Et contre
Michael
Kevin
Chandler.
Lee, il était vachement aussi.
Et Michael
et contre
Chandler
aussi, il me semble.
Donc, il est temps de mettre du respect sur son nom. C'est ce qu'il a dit, Michael Chandler. Arrêtons de douter de Charles
Oliveira. Ouais, carrément. Et en plus, moi, il y a quand même un élément, c'est Makhachev impose son jeu parce qu'il est tout le temps au centre de la cage. Personne n'ose lui mettre la pression de crainte de se faire mettre au sol. Et donc, ils sont tous en train de tourner autour de la cage, ce qui laisse le temps à Makhachev d'imposer son jeu debout, qui est fort à longue distance, des single attacks avec les kicks. Et puis, dès qu'il a l'opportunité, avec son explosivité, il fait une entrée en lutte. Et là, c'est le début de la fin pour ses adversaires. Mais Charles Oliveira, c'est quelqu'un qui s'en fout, en fait. Il va venir, il va foutre la pression. Et le problème d'un lutteur qui a l'habitude de mettre de la pression et qui se fait mettre sous pression, c'est que ses takedowns seront probablement beaucoup plus télégraphés. Et Charles Oliveira, c'est pas un striker, c'est quelqu'un qui a amélioré à fond sa lutte. Et on l'a vu entre Chimaev et Burns. Dès que Chimaev essaie d'amener Burns au sol, il se rendait compte qu'il n'allait pas avoir la même qualité de contrôle sur Burns, et donc limite, ça, dès qu'ils sont relevés du premier takedown, il a quasi totalement arrêté ses tentatives de takedown, et c'est quelque chose qui est possible si le combat a lieu entre Charles Oliveira et Makhachev, c'est qu'après sa première tentative de takedown, il se dit « j'ai plus de chances debout ».
Mais le « j'ai plus de chances debout »,
bah ouais,
pas vraiment en fait.
Ouais, non, c'est clair, surtout contre Oliveira 3.0 comme aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est ça qui est vraiment le plus intéressant, comme on avait commencé à l'évoquer, mais c'est que ben, finalement ce qu'on attendait depuis le début, il y a beaucoup de mèmes qui sont faits sur c'est le nouveau Tony versus Khabib, mais par pas mal d'égards, oui en fait. Alors ils ont des styles les uns et les autres qui ont des différences, c'est sûr, mais par le simple fait, vraiment l'énigme générale qui est de est-ce qu'un gars, lorsque comme Charles Oliveira qui est un prodige du sud-brésilien et du grappling, quand tu le mets au sol au milieu de la cage et pas contre la cage, qu'est-ce qu'il peut faire contre un gars qui base tout son jeu au sol sur le contrôle, la nullification et tout. Et c'est vrai que ben là, sous cet aspect-là, cette énigme-là, on la retrouvera exactement de la même manière. Ce ne sera pas les mêmes acteurs. Mais en soi, vu comme Oliveira ne sait rien faire d'autre, je ne devrais même pas utiliser ces termes-là. Il veut absolument te mettre la pression parce qu'il sait que c'est comme ça que son game sera le plus efficace. Ben, à coup sûr, en fait, on l'aurait ce cas de figure où, au début du combat, il y aura un moment où il slam, mais au sol Oliveira, et on est dans un endroit où il ne peut pas céder de la cage. Et là, franchement, vraiment, ce sera fascinant. Après, ce sera fascinant, parce que du coup, je ne sais pas si tu l'as revu il n'y a pas longtemps, le combat contre Kevin Lee, Chris, justement, mais c'était assez rigolo, parce que je crois que c'est à la fin du premier round où il se retrouve, il fait galérer de ouf Kevin Lee lorsque c'est exactement à l'ouvert, mais à la fin du premier round, il se retrouve contre la cage et dans le même genre de position dans lequel il pourrait se retrouver contre Islam. Ou Islam. Ouais. Et là, en fait, c'est vraiment marrant parce que c'est comme au cinéma, on arrive sur cette situation-là, il y a genre 2-3 des bons coups en plus de Kevin Lee en run and pound, et c'est la fin du round et on reverra plus jamais la situation telle quelle. Ça, c'était assez marrant, mais est-ce que toi, t'as souvenir de l'avoir vu à un autre moment dans sa carrière, Charles Oliveira, contre la cage sur son dos?
C'est probablement arrivé, mais si c'est arrivé, c'est tellement loin dans ma mémoire que ça veut aussi dire que c'est obsolète, parce que comme on l'avait dit pendant live, Charles Oliveira est quelqu'un qui a tellement progressé qu'on peut plus prendre pour référence des combats qui datent de limite avant Nick Lenz. Je dirais que le dernier combat...
Et avant l'ère d'Aghestan, quoi.
C'est ça. Et donc, je pense clairement, si Islam Makhachev arrive à amener Charles au sol contre la cage, il va dominer le round sans problème et il va garder position, il va infliger du dégât, même si Islam Makhachev tourne plus autour du grappling soumission que du grappling dégât. C'est vraiment la grosse différence entre Khabib et lui. Je pense que ça lui fait remporter des rounds. Mais pour l'amener au sol contre la cage, il faut soit que lui mette la pression, soit qu'il amène au sol à l'ouvert et qu'il arrive jusqu'à la cage. Ça, ouais. Et on va quand même rappeler que le clinch de Charles Oliveira, c'est quelque chose. Donc, faire ton entrée en lutte, puis chercher à pousser jusque l'autre bout de la cage, ou en tout cas aller le pousser à la cage, il y a un beau petit risque de prendre des genoux et puis de le voir s'échapper. Maintenant, quand même, la grande force d'Islam Makhachev, c'est qu'il a un contrôle, même avec son overhook, qui est assez impressionnant et qui est très rare en MMA. En MMA, on va plutôt favoriser les underhooks et surtout les double underhooks pour les contrôler et les amener au sol. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement le cas chez Makhachev, qui a développé un jeu en sachant que les gens vont vouloir défendre avec de underhooks. Et lui, avec son contrôle du overhook, il a plein d'options pour amener au sol. Donc là aussi, ça joue en sa faveur. Donc moi, c'est vraiment un combat qui m'intrigue, parce que ça peut vraiment partir dans beaucoup de directions différentes et c'est difficile d'anticiper ce qui se passerait. Mais clairement, voilà, ces codes de Paris sont tellement disparates, parce que l'histoire que ces codes de Paris racontent, c'est que vraiment Islam va trouver, peu importe son ouverture, ça va d'office aller au sol, il va d'office garder le contrôle, et il va probablement, parce que quand t'es à moins 410, c'est pas une décision, c'est soit c'est une décision 50-43 que tu veux refléter, soit un finish. Et c'est ça, moi, qui me choque là-dedans. C'est une probabilité, clairement. Mais est-ce que cette probabilité est à 70-75% de chances d'arriver? Je pense pas.
Et c'est vraiment intéressant aussi par la temporalité du truc, parce que là, ça fait donc maintenant plusieurs années qu'on a eu l'avènement du style Khabib, entre guillemets, pour le nommer avec un terme comme ça, et de lutte contre la cage, de lutte en pression, de lutte où tu neutralises et tu étouffes ton adversaire. Et un peu comme les low kicks où il y a eu, et je me souviens, c'était il y a quelques années aussi, mais une période où on se disait, putain, c'est implacable, c'est presque du cheat, c'est de la triche, tu peux rien faire. Et en fait, on se rend compte petit à petit avec les défenses que nous montre en José Aldo, que nous montre dernièrement Charles Oliveira contre Justin Gaethje, que non seulement il y a une défense, mais que c'est, et ça c'est vraiment rassurant, mais que c'est comme tout, t'as même des défenses qui mettent dans le mal la personne qui rate son low kick, parce que pour le coup, la manière dont il retire sa jambe, Charles Oliveira, et dont en même temps il attaque en anglaise, où il va chercher la tête sur un adversaire qui est donc déséquilibré parce qu'il s'est fendé par sa propre jambe, ben ça peut te mettre plus en porte-à-faux qu'autre chose, toi qui lances le low kick. De la même manière, le style Khabib, le style Daghestan, bah, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est implacable, mais c'est comme tout. Il y a un moment donné, et j'en suis sûr parce que c'est l'histoire du MMA, c'est l'histoire du sport, il y a un moment donné où il y a un gars qui va arriver avec une solution et tout le monde va faire « Ah putain, ouais, en fait, il fallait faire ça depuis le début ».
Ouais, et en fait, c'est progressif parce que le premier qui a donné un semblant de solution à ça, alors, ça va être choquant, Conor McGregor, premier round contre Khabib, probablement le takedown réussi le plus compliqué de Khabib, c'est le premier sur Conor. Il était mis sous pression, c'était lui qui était dos à la cage, il a dû shooter de loin, il a télégraphé son shoot, et au final, Conor a tenté un coup de genou en contre. S'il ne l'avait pas tenté, il aurait potentiellement pu désengager plutôt et avoir un sprawl facile. Cette tentative de coup de genou est finalement partie sur un sprawl et sur un scramble qui était vachement, vachement long. Et le scramble, encore une fois, McGregor a pris des risques. Enfin, des risques, c'est un grand mot, mais il avait l'opportunité de sortir du scramble et de remettre debout. Mais on l'a vu tenter de prendre le top control contre Khabib, ce qui était ce qui après coup est une erreur. S'il avait réussi à le prendre, on aurait crié au génie. Mais au final, Khabib a mis du temps à trouver son ouverture pour ramener à la cage et pour quasi finaliser son takedown. Au final, l'entièreté du premier round, c'est pas un round à la Khabib. Généralement, Khabib, il gagne, s'il arrive à faire son entrée en lutte après une minute de round, ouais, il gagne par 18 ou par 17 son round. Là, c'était clairement un 19 parce que il y avait le contrôle. Il n'y avait pas les dégâts classiques. Et donc, Conor a un peu montré la première direction qu'il faut prendre, c'est mettre la pression, être soi-même au centre, forcer les takedowns télégraphés. Et après, évidemment, c'est plutôt désengager sur la lutte qui va fonctionner. Le deuxième qui était en train de le montrer, c'est Gilbert Burns. Mais bon, qui peut suivre ce que fait Gilbert Burns au sol, à part Gilbert Burns et les Demian Maia et ce genre de personnes? C'est compliqué. C'est avoir un niveau extraordinaire où on...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La logique de Gilbert Burns, c'était vraiment empêcher toutes les forces de Chimaev. Les forces de Chimaev, c'était à chaque fois d'avoir accès le contrôle avec ses deux mains. Gilbert Burns, il avait à chaque fois le contrôle sur un poignet, soit avec un two-on-one, soit avec un contrôle de poignet, et ça empêchait Chimaev de chercher son body lock ou le contrôle de poignet pour enlever la base, ce genre de choses. Donc ça, c'est la deuxième logique, c'est vraiment toujours avoir un contrôle sur au moins une des deux mains du gars pour empêcher les avancées de position ou le ground and pound.
Et on avait un troisième aussi qui était assez intéressant et soulevé par Jack Slack aussi, mais qui était le Mansour Barnaoui, Cocorico, les sweeps, et je ne sais plus si c'est le Giggler.
Giggler.
Ouais. Giggler. Et il a réussi à sweeper, il me semble, déjà Islam Makhachev à l'époque, et le cousin de Khabib aussi, par un sweep qui a l'air salement efficace. Je ne m'y connais pas suffisamment pour voir, tu vas nous dire, Chris, si c'est parce que surprise ou si c'est parce qu'il est vraiment efficace contre ce type de lutteur.
Alors déjà, le nom du Giggler Sweep, il est marrant. Donc, to giggle en anglais, c'est rire bêtement, entre guillemets. Et en fait, le nom vient justement du fait qu'une fois que tu as la position pour le faire, c'est facile. C'est pas de la force, c'est pas de l'effort ni quoi que ce soit. Donc, juste pour expliquer en principe, parce qu'en fait, ce que Jack Slack a dit par rapport à ça, ça rejoint ce que je viens de dire. Il faut avoir un contrôle de la main, du poignet, du gars, dans la direction où tu veux l'envoyer. Donc, si le gars est en demi-garde de ton côté droit, tu vas vouloir l'envoyer de ton côté gauche et tu vas vouloir avoir un contrôle sur sa main droite, parce que c'est sa main droite qui peut se tendre pour empêcher le sweep. Tu enlèves sa base. Une fois que tu as enlevé sa base et que ta jambe qui est contrôlée par ses jambes, tu peux déposer le pied à l'extérieur de sa jambe qui est dehors par rapport à toi. Ça te permet de ponter et de sortir, simplement sortir tes hanches. Franchement, j'avais fait un cours autour du Giggler Sweep à l'époque à mes élèves. Et une fois que tu as la position, le finish est très simple. C'est atteindre la position qui est très difficile parce que les bons grappleurs, les bons lutteurs, ils vont t'empêcher d'avoir le contrôle de la main opposée parce qu'ils vont généralement venir chercher le underhook. Et donc, bonne chance pour aller enlever le underhook pour en plus contrôler le poignet avec tes deux mains. Et en plus de ça, ils vont toujours contrôler en croisée ta jambe qui est entre leurs jambes, parce que c'est le contrôle de la demi-garde, c'est ce qui favorise un meilleur contrôle en demi-garde qu'en side control. Mais si tu arrives vraiment à sortir ta jambe sur l'extérieur et avoir le two-on-one ou le contrôle de poignet dans la direction dans laquelle tu veux aller, la suite, c'est un success rate, enfin c'est un pourcentage de réussite de 100%. Une fois que tu as ces deux éléments-là, ton sweep, il l'est fait, à coup sûr. Après, il y a peut-être un scramble qui peut s'en suivre, mais en tout cas, tu ne seras plus dans la demi-garde et tu auras commencé le sweep, ça c'est sûr.
Très bien, messieurs. Avançons avec l'UFC qui est de retour à l'Apex de Las Vegas avec un choc entre deux light heavyweight, entre deux contenders, l'ancien champion Jan Błachowicz et la nouvelle génération qui est représentée par Aleksandar Rakic. Messieurs, à quoi peut-on s'attendre pour ce combat? Je le rappelle, c'est le premier combat de Jan Błachowicz depuis sa défaite face à Glover Teixeira il y a quelques mois de ça, après une performance assez surprenante de la part du Polonais. Chris?
Alors moi j'ai un peu peur, je dois avouer, j'ai un peu peur que le combat soit décevant et pas spécialement excitant, avec un manque d'intensité, de volume et tout ce qui s'ensuit. Et le problème à ça, c'est qu'a priori le vainqueur devrait être le prochain contender pour le titre, même si Błachowicz vient de le perdre. Tu bats Rakic qui est numéro 3 de la division, bah, tu mérites ton title shot, et Rakic s'il bat l'ancien champion, il serait sur une série de 3 victoires chez les light heavyweights, dont la dernière défaite serait une split contre Ozdemir. Et avant ça, je pense qu'il était aussi à 3 ou 4 victoires d'affilée à l'UFC. C'est difficile de nier le title shot. Mais évidemment, quand tu donnes un title shot à quelqu'un qui sort d'une victoire un peu d'un combat bof, c'est jamais très excitant. Et cette division, elle commence vraiment à perdre beaucoup, beaucoup d'intérêt. Sauf si Jiří devient le champion, ça devient un peu la personne excitante de la division. Mais voilà, j'ai un peu peur parce qu'il y a quand même, selon moi, une haute probabilité que le combat soit assez décevant, parce qu'on a tous les images de Błachowicz qui met KO Reyes, qui met KO Luke Rockhold, c'est des magnifiques performances, qui bat Israel Adesanya dans un combat où c'était stratégiquement très intéressant de son côté. C'est aussi un peu comme un Charles Oliveira qui a eu un début de carrière très compliqué à l'UFC, qui fait une résurgence qui était incroyable. Et Rakic, on a pour souvenir son spinning backfist contre Devin Clark, on a pour souvenir évidemment ce uppercut switch high kick sur Manua. Et donc comme on a ces images de highlight en tête, on a l'impression qu'on risque d'avoir un banger, mais la réalité c'est que ça dépend de Błachowicz. Selon moi, Rakic sur ses trois dernières performances, il a été fort dans la retenue. On a l'impression qu'il a un peu le truc de beaucoup de champions qui en début de carrière ils font des combats incroyables et dès qu'ils arrivent au niveau où ça devient difficile pour eux, ils vont chercher la victoire à tout prix et ça devient moins divertissant. On peut pas leur reprocher ça, mais évidemment en tant que fan on est moins excité par leur combat du coup. Et donc j'ai l'impression qu'on va avoir un Rakic qui lui va jouer la distance au début. Parce que je pense que si c'est à distance, c'est lui qui va gagner au kicking range. C'est lui qui va gagner avec ses low kicks, avec ses push kicks, avec un peu son anglaise en ligne directe. Et donc, ça dépend de Błachowicz. Et Błachowicz, face à un très bon kicker, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est mettre la pression, donner de l'intensité, comme il est capable de le faire. Mais c'est ça aussi qui lui a porté défaut contre pas mal de combattants, notamment contre Thiago Santos. C'est quand il se surexpose à force de vouloir envoyer son direct du droit, faire un shift à la poirier, puis envoyer son kick. Ça a joué pour lui contre des Ilir Latifi, par exemple, mais ça a joué contre lui contre des Thiago Santos. Et donc, contre des bons punchers, voilà, ça peut jouer contre lui, mais c'est ce qu'il doit faire. Il doit mettre pression à Rakic, comme ça, il est sur son pied arrière, il sait pas trop délivrer son jeu en kick, et puis ça va peut-être initier en lutte. Et là, comme je le disais hors antenne, pour moi, ils ont tous les deux un niveau très correct en lutte, en grappling aussi. La grosse différence, c'est ils ont un bon top contrôle, mais quand ils sont en dessous, ils sont pas extraordinaires. Donc celui qui arriverait à prendre le contrôle peut dominer, et je pense que là, c'est difficile de prédire qui dominerait, mais je pense que c'est celui qui va initier la lutte qui dominerait le reste de l'échange en lutte. Et l'un comme l'autre est capable de venir avec cette logique. Autant Błachowicz est capable de venir en disant « je vais mettre pression, je vais clincher à la cage, ça va être difficile de l'amener au sol, mais je peux gagner en gardant le contrôle à la cage et en faisant un peu de dirty boxing. » Ou alors Rakic, s'il est trop sous pression, il va dire « ok, je peux pas délivrer mes kicks, je vais initier en lutte et je le sens capable aussi d'être… » Enfin, il a les compétences pour amener Błachowicz au sol et surtout le garder au sol. Je crois que la difficulté, c'est la mise au sol. Une fois que c'est au sol, quiconque est au-dessus devrait garder le top contrôle, selon moi.
Big Rusty.
Alors, il n'y a pas grand-chose que je peux rajouter. Je ne suis pas à ce niveau d'analyse. Mais par contre, un truc qui, moi, me fait un peu flipper, c'est de l'extra sportif. Mais Blachowicz, là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à la blessure qu'il a eue et qui a fait qu'il a dû réorganiser un peu ses sparring et tout. J'ai vraiment peur, là, en fait. C'est-à-dire que c'est un combattant professionnel, c'est Sungjae Inpan, donc là, il vient au combat. Mais la blessure qu'il a connue, là, il y a quelques semaines, c'était, je me souviens plus comment est-ce qu'elle est arrivée, mais en gros, ça l'a laissé paralysé sur tout un côté du corps. Et il ne pouvait plus recevoir de coups à la tête sans avoir une sensation, en gros, de paralysie ou de migraine ou de trucs comme ça. Et je sais pas à quoi c'est dû, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être une bonne nouvelle. Et je ne sais pas à quel point ça a influencé son camp d'entraînement, mais c'est là qu'on se rend compte que ce sont des guerriers devant l'éternel, mais je me dis, putain, son entraînement a dû sacrément en être changé parce que du coup je vois pas comment il a pu reprendre des sparring, des trucs comme ça, et en plus de ça, même sa manière de combattre là, elle peut en être imputée, peut-être à être plus timide dans les échanges, avoir un game plan beaucoup plus safe, ou enfin, ça c'est vraiment un truc qu'il en a parlé, et c'était tellement énorme comme blessure, parce que là c'est presque le système nerveux qui a l'air d'être atteint, que j'ai peur que ça... On en parlera plus après parce qu'il y aura le rouge ou le vert sur Wikipédia, mais j'ai peur que ça n'impacte sa performance, quoi.
Et c'est sûr, je pense que si ça joue sur ta confiance, parce qu'en gros, tu rentres dans un combat en disant je peux plus prendre des coups comme avant, et donc effectivement, comme tu dis, il risque de devenir un peu attentiste, et c'est la pire chose à faire contre Rakic, parce que Rakic est très bon de l'extérieur, il est très bon pour, il l'a montré sur ses deux dernières performances particulièrement, il est très bon pour marquer ses points et remporter des rounds compétitifs grâce à ça. Blachowicz l'avait aussi montré contre Adesanya, parce qu'il a réussi à un peu gérer le rythme du combat, mais ce qui fait la force de Blachowicz, c'est justement cette capacité à être très simple dans certains moments du combat, utiliser son jab, son cross, des combinaisons simples, et puis à un moment switcher et partir sur un genre de blitz ou un genre de bull rush avec une combinaison de 4-5 coups qui finit par un kick, et c'est ça qui surprend très très fort. Mais évidemment, comme j'ai dit, pour moi la meilleure chance de Blachowicz, c'est de venir de manière agressive et de jouer je vais pas dire un peu plus le pile ou face, mais de jouer on va échanger dès le début. J'ai pas peur que ça se finisse dans le premier round. C'est vraiment là où il mettrait le plus de chances de son côté. Parce que Rakic, c'est un peu comme Blachowicz à certains points. C'est-à-dire que il va envoyer du pied-point de manière très technique par moment, où on va vraiment le voir envoyer son jab. Il est bien protégé avec son autre main. Il va envoyer des kicks où il sera vraiment très, très loin de son adversaire et il prend aucun risque de se faire contrer en anglaise quand il envoie un low kick. Mais par contre, de temps en temps, comme son KO contre Manoa, on va voir que si on fait une pause à un moment de la vidéo, on le voit, il est en mode hélicoptère, les deux bras sont à l'opposé, et il envoie beaucoup son uppercut arrière, ce qui est la pire frappe à envoyer contre quelqu'un qui a un bon check hook. Et Jan Blachowicz a un magnifique check hook, je pense que Luke Rockhold pourrait nous le dire, hein, vraiment. Et évidemment, ben, l'uppercut arrière, en fait, ce que tu fais, c'est que tu enlèves d'abord ta main protectrice, et puis tu vas envoyer ta frappe, donc il y a un temps prolongé où tu es ultra ouvert sur les check hooks. Donc je ferai gaffe à cette situation, ça pourrait se produire, c'est même assez probable que ça se produise, mais voilà, c'est toujours, j'aime bien toujours sur certains combats glisser une petite technique qu'on pourrait voir et qui est probable d'arriver, donc on verra. Mais pour que ça arrive, encore une fois, il faut que Rakic soit sous pression, se sente forcé d'attaquer, et c'est là où son agressivité lui fait perdre un peu de la propreté technique.
Messieurs, place au pronostic. Si on se penche sur les cotes Unibet actuellement, 2,62 pour Jan Blachowicz, 40% des gens ont misé sur lui, et Rakic favori avec 1,53, donc 60% des gens ont misé sur lui. Que voyez-vous personnellement ? Je vois une victoire par TKO d'Alexander Rakic, ground and pound au 4e round. Je pense qu'il va faire une performance dans la lignée de celle contre Anthony Smith, et je pense qu'il va réussir à finir son adversaire. Voilà, messieurs.
Waouh.
Chris, t'as quoi ?
Moi, je n'aime pas dépendre des game plans et du mental d'un athlète sur mes paris. Donc, je vais partir sur Rakic à la décision.
Eh ben, moi, je vais partir sur... Quoi ?
Oh, wow. Alors
Blachowicz par... il va surprendre tout le monde grâce à sa corde de pendu. KO, deuxième round.
Pouh, ok.
Non, ça n'a aucun sens, okay. Hein, mais j'aimerais bien.
Et bah... c'est totalement possible, mais ça dépend vraiment de son gameplay.
C'est ça, et espérons.
Le Polish Power pourrait parler s'il vient avec le bon game plan.
The Legendary Polish Power. Et puis donc en co-main event, il y a Yon Kutelaba contre Ryan Spann, mais c'est pas ça. Vous n'êtes pas ici pour ce combat. Vous êtes là pour le choc entre Davy Grant et Luis Molca. Je sais que vous avez tenu plus de 28 minutes pour voir ça. Eh bien, Chris va vous présenter ce choc qui risque de ne pas décevoir. Intéressant, donc Davy Grant est grandissime favori avec une cote à 1,33 et 97% des gens qui ont misé sur le combat ont misé
C'est énorme.
Ouais.
On va quand même raconter l'histoire. On est en train de rigoler parce que hors antenne, j'avais dit ouais, il faudrait qu'on parle de Smolka contre Davy Grant parce que ça pourrait être le Fight of the Night. Selon moi, je trouve que ça, même si ça n'a pas de sens niveau ranking, enfin, ça a du sens niveau ranking, mais ça n'a pas de sens niveau division. C'est pas le gagnant, on va pas éclorer comme le nouveau contender, mais sur papier, c'est un combat qui peut être vachement, vachement excitant dans le sens où Luis Smolka, c'est un peu une version de Joe Lauzon. Il arrive, il combat, il va surprendre des combattants contre qui il devrait perdre, il va se faire surprendre par des combattants contre lesquels il devrait gagner parce qu'il n'a aucune notion du risque. Lui, il vient, il bagarre debout, il espère que ça aille au sol, et au sol, c'est quand même quelqu'un qui a des excellents scrambles. Même s'il s'est fait soumettre plus d'une fois dans sa carrière, il a quand même un très très bon jeu au sol, des bons sweeps, des bonnes soumissions, donc un jeu très appréciable en grappling. Et Davy Grant, c'est quelqu'un qui, moi, j'aime bien. Il bouge bien, il a des bonnes combinaisons, il travaille avec un haut volume de jeu, il a une bonne puissance de frappe, il serait totalement capable de mettre un chaos sur Smolka. Donc pour moi, c'est le genre de combat où ça pourrait être une soumission dans le premier round pour Smolka, comme un chaos dans le premier round contre Davy Grant. Et si ça dépasse le premier round, on peut juste avoir un combat très dynamique avec beaucoup d'action, peu importe où le combat a lieu, puisque Davy Grant, c'est beaucoup d'action debout. Smolka, si ça va au sol, c'est beaucoup de scramble, beaucoup de mouvement, beaucoup d'action aussi. Et je vois pas comment ce combat pourrait décevoir si on prend pas en considération les rankings, l'excitation du combat, qui gagne aura quelque chose par la suite. C'est juste, on regarde le combat en tant que fan de MMA, on devrait vraiment l'apprécier.
Pronostic.
Et c'est vraiment cool parce que... Smolka, moi, là, je m'en souviens en particulier parce qu'il devait combattre à un moment donné sur une carte en Irlande et je ne sais plus ce qui c'était. Enfin...
Oh oui, j'étais là, j'étais sur
c'est
place.
Vrai
ouais, donc Dustin Poirier devait être main event contre... c'est quoi son nom Joseph Duffy.
Joe Duffy, ouais.
Qui a d'ailleurs été un combat qui a été reporté et qui était incroyable. Donc la haine serait un de ses main events à Dublin. C'était pour mon anif qu'on était là-bas d'ailleurs. et en co-main event, on devait avoir un combat poids lourd, je sais plus, c'était Ben Rothwell contre je sais plus qui. Et au final, les deux combats dans la semaine se sont annulés et du coup, il s'est retrouvé main event contre Paddy Holohan.
C'est ça. Pas les Holohan. Non, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que moi, c'est vraiment comme ça que je m'en souvenais parce que ça m'est marqué à l'époque. Mais c'est vraiment cool de se dire, parce que tu vois, tu as dit que du coup, Luis Smolka, c'était quelqu'un qui était connu pour faire beaucoup de scrambles et du coup, il est très bon dans les scrambles. C'est marrant de dire à propos de quelqu'un qu'il est bon dans les scrambles. Mais en fait, de la même manière que Charles Oliveira, parce qu'en gros, tu as rajouté ensuite, mais il se fait aussi beaucoup soumettre. Mais en fait, j'ai l'impression que du coup, par essence, en fait, tu vas forcément te faire soumettre à un moment donné une ou plusieurs fois quand tu es bon dans les scrambles et que c'est ton skill, en fait. Parce que donc, par essence, c'est créer du chaos au sol, créer du mouvement. Donc forcément, bah, la plupart du temps, tu t'en sors bien parce que c'est ton monde, mais tu laisses aussi des ouvertures, quoi.
Bien sûr. Oui, c'est la même chose en pied-point. Quand tu aimes bien l'échange et que tu aimes bien créer du chaos debout, bah, si tu es meilleur que tes adversaires, tu vas mettre des chaos, mais tu risques aussi de te faire surprendre. Et c'est un peu le cas Yiri. Pour moi, Yiri, c'est typiquement ça debout. C'est quelqu'un qui prend des risques. Il est généreux. On dit ça souvent. Mais comme c'est lui qui dirige ses échanges, cette pression, cette intensité, c'est lui qui a plus l'habitude et qui va sortir au top de la plupart des échanges. Mais de temps en temps, il risque de se faire surprendre, surtout en light heavyweight. Comme Charles Oliveira, il lui fait pareil debout et au sol. Lui, c'est intense partout. Il va se faire surprendre de temps en temps, mais pour le moment, il a trouvé la formule pour chaque fois être au-dessus de ses adversaires dans ses échanges plus chaotiques.
Et bah, formidable, messieurs. Bien, le pronostic de Chris.
Moi, je vois Davy Grant s'imposer par TKO en fin de premier round.
Et ben voilà. Mettez tout votre argent sur ouais. David Grant. Allez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Messieurs, big shout out à MySweetPig, MySweetProtein. Moins 38% sur tout MyProtein avec le code LASSUEUR. Venom, sponsor de waouh de l'UFC. Sponsor de LASSUEUR. Cette semaine, non. Non, pour vos douces oreilles, vous n'aurez pas droit à la promo Onaï par Chris. Parce qu'il faut que le podcast reste PG-13.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.